votre chronique découverte. Nicolas Bourboin.
Après les maladies cardiovasculaires, les cancers et même la cécité, le tabac vient d'être jugé responsable d'un autre mal, la chute des cheveux. Des chercheurs italiens ont démontré que la cigarette provoquait une alopécie, du moins chez les souris. Les essais chez l'homme n'ont pas encore été réalisés pour le moment. Mais chez nos amis rongeurs, le tabac a des effets dévastateurs. Il perturbe le cycle de vie du poil. En effet, comme les cellules cancéreuses, les cellules capillaires ont la particularité de se diviser très rapidement. Nos cheveux poussent donc très vite, ils se renouvellent en permanence, et vous le savez sans doute déjà, la chimiothérapie a des effets toxiques sur leurs cellules. Elles freinent leur développement. Eh bien, les chercheurs ont désormais mis en évidence le même mécanisme avec la cigarette. Elle conduit à la mort des cellules du bulbe du poil. Résultat, nos cheveux ternissent et deviennent fragiles. En plus de cela, le tabac aurait pour effet de priver nos cheveux de certains nutriments indispensables à leur vitalité, comme les acides aminés, les vitamines B ou encore les oligo-éléments. Ils perdent leur brillance et les fumeurs ont d'ailleurs souvent les cheveux qui grisonnent très rapidement. Si vous tenez à vos cheveux, une seule solution, arrêtez de fumer. C'est radical, mais efficace.
Réécoutez cette chronique et échangez vos avis sur internet www.publicsante.com.
No matter how hard I try, you keep on pushing me aside, and I can't break through. There's no talking to you. It's so sad that you're leaving. It takes time to believe it, and after all is said and done, well, you're gonna be the lonely one. Oh, do you believe in life after love? I can feel something inside me saying I really don't think you're strong enough. No, do you believe in life after love? I can feel something inside me saying, but I really don't think you're strong enough now. What am I supposed to do? Around and wait for you. Well, I can't do that. There's no turning back. It takes time to move on. I need love to feel strong. Well, I've had time to think it through. Well, maybe I'm too good for you.
votre chronique sociale. Cyril Château.
La sclérose en plaques est une maladie qui touche près de 80 000 Français et qui représente la première cause de handicap neurologique chez l'adulte jeune. La sclérose en plaques est due à une destruction de la gaine de myéline, la membrane qui entoure les prolongements de certains neurones et dont l'altération perturbe l'information transmise par le cerveau au reste du corps. Ce trouble de la transmission de l'influx nerveux se traduit par différents types de symptômes selon la zone du cerveau qui est touchée. La sclérose en plaque est caractérisée par une évolution imprévisible qui peut entraîner des troubles moteurs comme une faiblesse musculaire ou une gêne de la motricité, des troubles sensitifs comme une baisse de la sensibilité de certaines parties du corps, des engourdissements ou des fourmillements, des troubles visuels, par exemple une baisse de l'acuité ou une vision en double, des problèmes cognitifs comme des troubles de la mémoire, des difficultés à fixer son attention. Selon l'évolution de la sclérose en plaque, on peut en distinguer trois formes. La première est dite rémitante. La première phase de la maladie évolue par poussée entrecoupée de périodes de rémission. La seconde est appelée secondaire progressive. Cette forme apparaît au bout d'une dizaine d'années d'évolution chez environ 50% des malades. Et enfin la dernière, qui est dite progressive d'emblée. Elle apparaît généralement chez des personnes de plus de 40 ans et les symptômes progressent en quelques mois. Le traitement de la sclérose en plaques fait intervenir des traitements de fond comme des immunosuppresseurs et les interférons bêta qui permettent de limiter l'inflammation dans le système nerveux et de diminuer ainsi les poussées. Ces médicaments puissants sont généralement administrés par voie sous-cutanée, une fois par semaine à une fois par jour selon la maladie. Durant les poussées de la maladie, le recours à la corticothérapie peut être nécessaire. Les douleurs, les raideurs musculaires et les troubles urinaires sont également pris en charge. Certains handicaps nécessitent une kinésithérapie régulière, en plus des médicaments, et un soutien psychologique qui est souvent très utile pour passer certaines épreuves de la maladie. À ce jour, la recherche en matière de traitement représente un formidable espoir pour les personnes atteintes de sclérose en plaques.
La radio qui vous veut du bien, avec dans un bref instant le retour de vos chroniques santé. Et nous parlerons de votre chronique traitement. Ça sera juste après ceci, à tout de suite.
Essentiel, irremplaçable. Grâce à toi, grâce à lui, je revis.
Le sang est un produit rare et précieux. Le don de sang est un acte généreux, solidaire et responsable qui permet chaque année de soigner 1 million de malades. Donnez votre sang.
C'était un message de l'établissement français du sang, www.dondusang.net.
Radio Public Santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio Public Santé,
la radio qui vous veut du bien.
The whispers in the morning of love and sleep and tide are rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. 'Cause I'm your thank you.
Santé, 50% musique et 50% actualité santé. Avec dès maintenant, votre chronique traitement. Jessica Daguerreau.
12% de la population active, soit 6 à 7 millions de victimes, la migraine est un mal qui n'épargne personne. Et pourtant, contrairement aux idées reçues, ce n'est absolument pas une fatalité. La raison en est toute simple, sachez que 80% des migraineux ne consultent pas, et sans consultation, difficile d'y remédier de manière efficace. Beaucoup préfèrent l'automédication et ignorent trop souvent la nature de leurs maux de tête. Pourtant, des traitements spécifiques existent, à condition que le diagnostic soit correctement posé. En premier lieu, il est important de savoir la reconnaître. Une migraine est un mal bien particulier qui se démarque des maux de tête dits classiques dont nous sommes tous ou presque victimes de temps à autre. La douleur est généralement pulsatile, l'impression d'un cœur qui bat dans le cerveau. Elle est le plus souvent localisée sur le côté de la tête et les crises peuvent durer de 4 à 72 heures. Les hormones féminines jouent un rôle essentiel, nous sommes mesdames 3 fois plus touchées que les hommes. Mais 8 fois sur 10, les migraines apparaissent dans des conditions bien particulières. Fatigue, stress, consommation de certains alcools ou aliments, elles s'engouffrent dans la moindre de nos faiblesses et les facteurs incriminés sont aussi multiples que divers. Pour la traiter, plusieurs solutions. La première n'engage que vous. Sachez qu'une bonne hygiène de vie est un facteur essentiel pour lutter contre les crises. Dormez bien, mangez sainement et faites du sport. Voici les premières clés de la réussite. Si cela ne suffit pas, sachez qu'en allant consulter, votre médecin pourra vous prescrire des antidouleurs en cas de crise et vous proposer un traitement de fond visant à réduire l'intensité et la fréquence des migraines dans le temps. Mais la recherche avance tous les jours dans ce domaine. Dernièrement, des travaux américains ont suggéré l'injection dans certains muscles du visage de la toxine botulique pour soulager les maux de tête et les migraines. Un traitement encore expérimental, certes, mais encourageant. De la beauté à la sérénité, il n'y a parfois qu'un tout petit pas.
Vous écoutez,
la radio qui vous veut du bien.
Radio Publique Santé, la radio 100% santé.
Time, we will find the timing. 'Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard some say you will love me one day. That I would try to meet someone. And there's so many guys, you told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself. 'Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard some say you will love me one day.
baguette de pain est désormais moins salée. Selon le ministère de l'Agriculture, la teneur en sel a diminué de plus de 20% depuis 2015 dans les pains courants tels que la baguette et autres pains blancs. En moyenne, ces pains contiennent maintenant 1,34 g de sel pour 100 g. En mars 2022, la filière boulangerie avait pris l'engagement de réduire de 10% la quantité de sel dans toutes les catégories de pain d'ici 2025. Les États membres de l'Organisation mondiale de la santé, dont la France, s'étaient également engagés à réduire la consommation de sel de 30% d'ici à 2025. Une consommation excessive de sel est associée à des risques accrus d'hypertension artérielle, de maladies cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux. Cependant, les boulangers affirment qu'une baguette sans sel serait nettement moins savoureuse. Le sodium est également essentiel pour améliorer la souplesse de la pâte et sa conservation. Selon une enquête réalisée début 2023 par l'UFC Que Choisir, la quantité de sel varie considérablement dans les différents pains vendus, allant du simple au double. L'organisation a analysé 111 pains différents et a constaté que parfois, une demi-baguette contient autant de sel qu'un grand paquet de chips. L'UFC Que Choisir indique que les boulangers pourraient pétrir leur pâte de manière moins intense ou laisser reposer la pâte plus longtemps pour rehausser la saveur tout en limitant la quantité de sel. En France, contrairement à la Grèce, au Portugal ou à l'Allemagne, il n'existe aucune obligation légale régissant la quantité de sel dans le pain et il n'est pas non plus obligatoire d'indiquer la teneur en sel sur les présentoirs.
Vous écoutez.
La radio qui vous veut du bien.
Radio Publique Santé. La radio 100% santé.
Here. Sans aller forcément jusqu'à là, vous avez sans doute déjà connu des tensions au sein de votre couple. Les disputes surviennent fatalement un jour ou l'autre. Elles sont souvent constructives, mais attention à protéger vos enfants. Car nos petites têtes blondes ont souvent les oreilles qui traînent. Et pour eux, voir papa et maman se disputer est toujours source d'angoisse. Avant tout, nous, parents, nous ne devons jamais oublier que nous sommes leur modèle par excellence. D'où l'importance de leur envoyer une image saine et positive de la cellule familiale. Souvent, après une dispute, nos nerfs sont à vif. Et il arrive parfois que l'on ait tendance à rabaisser notre conjoint devant nos enfants. Des paroles blessantes et particulièrement toxiques qu'ils prendront aussi à leur compte, car à leurs yeux, deux parents sont aussi importants l'un que l'autre. Inutile de vous dire que nos enfants ne sont pas là pour arbitrer nos conflits. Inutile donc d'essayer de leur faire prendre position et de leur demander de choisir un camp. C'est souvent au moment du divorce que ces problèmes se posent. Ce sont précisément ces comportements qui rendent l'enfant ultra sensible et qui le déstabilisent alors même que son idée de la famille vient de s'effondrer après la séparation de ses parents. À l'inverse, les spécialistes recommandent de ne pas vouloir préserver ses enfants à tout prix. S'ils surprennent une dispute, expliquez-leur que cela arrive dans toutes les familles et que pour vous et votre conjoint, vous allez tenter de trouver une solution. Ainsi, vos enfants n'auront plus peur des confrontations et comprendront l'importance de la discussion. Une belle leçon de vie.
C'est la radio qui vous veut du bien avec dans un bref instant le retour de vos chroniques santé et nous parlerons cette fois-ci de découvertes.
Et nous voici aujourd'hui avec Julie. Attention Julie, prend un verre. Julie pile des glaçons, elle presse un citron, une orange même. Et la voici proche du but, Julie qui s'approche de son amie Emma. Elle lui tend le verre, Emma qui grâce à Julie pourra enfin boire autre chose que de l'eau. Et la joie, mesdames et messieurs, la joie dans les yeux d'Emma, la joie, mesdames et messieurs.
Pendant la grossesse, soyons tous solidaires et supporters du zéro alcool. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Radio Public Santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio Public Santé,
la radio qui vous veut du bien.
Ils pourront bien essayer de nous monter l'un contre l'autre à contresens pour qu'on se vautre. Ils pourront nous raconter qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé. Ils pourront pointer du doigt, pointer l'amour coupable de quoi. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime.
on l'attend le moins. Du dîner d'affaires à la réunion de travail, en passant par le cinéma, et parfois, il est difficile de s'en débarrasser. Non, je ne parle pas de votre beau-père, je veux bien entendu parler du hoquet. Mais alors, d'où vient-il? Le hoquet résulte d'une concentration spasmodique du diaphragme. Vous savez, ce muscle qui se contracte quand on respire. C'est cette concentration qui est responsable des brusques secousses de l'abdomen et du thorax. L'onomatopée si caractéristique du hoquet est alors produite par la fermeture brutale de l'épiglotte et la vibration des cordes vocales. Concrètement, les scientifiques s'entendent pour évoquer plusieurs facteurs possibles au hoquet, comme la dilatation de l'estomac après un repas trop copieux, l'ingestion d'alcool ou l'absorption trop rapide de boissons gazeuses. Dans ces cas de figure, les recettes de grand-mère peuvent s'avérer très efficaces. On pense alors au blocage de sa respiration, à quelques gouttes de citron sur la langue ou au pincement de son auriculaire pendant une dizaine de secondes, par exemple. En revanche, des crises de hoquet prolongées ou récurrentes doivent alerter. Oui, car des cas de hoquet chronique existent. Mais ce phénomène reste relativement rare, seule une personne sur 100 000 en serait victime. Il est toutefois bon de savoir que les spécialistes parlent de chronicité lorsque le hoquet dure plus de 3 jours. À ce stade, mieux vaut-il encore consulter son médecin. Une endoscopie peut alors vous être prescrite. Il est donc bon de rester vigilant, le hoquet peut être le symptôme potentiel d'une pathologie plus grave, comme une insuffisance rénale ou une affection cardiovasculaire. Pour l'anecdote, il existe même un record du monde du plus long hoquet. Il est détenu par un prénommé Charles Osborne, cet Américain a hoqueté pendant presque 68 ans.
La première radio sur le bien-être. Tous les jours, 24h sur 24, l'info santé, beauté, prévention, sport, consommation, recherche, bien-être. 7 jours sur 7, Radio Public Santé, la radio
qui vous veut du bien.
êtes victime d'une petite baisse de régime au lit, mais vous n'osez pas en parler. C'est tout à fait logique car la sexualité est la plus grande de nos intimités. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas un cas isolé. Environ un tiers des hommes de 40 ans et plus sont concernés par ces pannes sexuelles, soit 3 millions d'hommes au total. Car les troubles de l'érection englobent en effet une quantité de symptômes différents. L'éjaculation précoce, l'absence de plaisir ou encore l'impuissance. Plus globalement, on entend par ce terme toutes les difficultés qui rendent la relation sexuelle difficile, voire même impossible. Verge molle ou absence d'érection, le problème est souvent psychologique. En matière de sexualité, plaisir rime avec désir. Si votre libido n'est pas au plus haut, c'est peut-être à cause de la routine. Briser le quotidien, changer vos habitudes et varier les plaisirs sont autant de solutions pour retrouver vos performances habituelles. Les massages et les préliminaires prolongés peuvent vous y aider. Stress, angoisse ou fatigue sont autant de barrages à une sexualité épanouie. Mais d'autres facteurs sont aussi à prendre en compte. L'alcool, s'il est consommé avec excès, devient néfaste pour les artères et particulièrement les artères du pénis. La cigarette a elle aussi un effet dévastateur et vous vous en rendrez particulièrement compte une fois que vous aurez décidé d'arrêter de fumer. En effet, dans les jours qui suivent l'arrêt, les érections deviennent rapidement plus vigoureuses et plus longue. D'une manière générale, les problèmes cardiovasculaires sont aussi souvent responsables d'un dysfonctionnement érectile. Diabète, cholestérol, hypertension, autant d'explications éventuelles. D'un point de vue hormonal, la testostérone est l'élément par excellence, mais avec l'âge, son taux diminue et peut être à l'origine d'un manque d'énergie ou de certains troubles de l'érection. Plus rares mais tout aussi importantes, les explications neurologiques. Il existe en fait des nerfs responsables de l'érection. Ils peuvent être endommagés à la suite d'une intervention chirurgicale par exemple. Les accidents vasculaires cérébraux sont aussi à l'origine de certains problèmes. À ne pas négliger non plus les problèmes de prostate, assez fréquents aux abords de la cinquantaine. Enfin, si rien n'y fait, restent encore les traitements adaptés, ils sont nombreux, mais attention, seul votre médecin peut vous conseiller. De nombreux médicaments à risque sont sur le marché, il faut donc rester vigilant et ne pas hésiter à en parler. Votre médecin généraliste deviendra votre première oreille attentive, il trouvera une solution qui vous convient pour mener une vie sexuelle épanouie et amplement satisfaisante.
La radio qui vous veut du bien, avec dans un bref instant le retour de vos chroniques santé. Et nous parlons cette fois-ci de la nutrition, ça sera juste après ceci, à tout de suite.
Hé, hey, t'as pensé à te protéger contre les tiques ?
C'est bon, la petite bête va pas manger la grosse.
Oh, tu sais, la tique ça peut transmettre la maladie de Lyme. Du coup, je fais attention et je me balade avec des vêtements longs. J'utilise du répulsif et j'emporte un tire-tique dans mon sac. Et puis, mieux vaut éviter les hautes herbes. Et après la balade, moi, j'inspecte bien mon corps.
Contre les tiques, être vigilant, c'est être gagnant. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Radio publique Santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio publique Santé,
la radio
qui vous veut du bien.
If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I listen to her, 'cause it's broken, so they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the rules as I go.
boy. You don't understand.
And you don't understand.
Oh, it feels to love a girl someday. You wish you were. But you're just a boy.
Radio Public Santé. Votre chronique forme et beauté.
Docteur François Pruniéras. Nombreux sont les patients qui viennent à une consultation de médecine esthétique pour des rougeurs persistantes qui s'accentuent dans certaines circonstances comme l'exposition au soleil et qui sont généralement situées sur le visage, voire aussi au niveau du cou ou du décolleté. L'existence de ces zones rosées s'accompagne parfois d'épisodes douloureux, de sensations de chaleur, voire de poussées de petits boutons blancs. L'attente de ces patients, c'est bien évidemment de se débarrasser de ces rougeurs qui attirent des regards interrogateurs et provoquent une certaine gêne. Mais de quoi souffrent-ils exactement ? En fait, il s'agit d'une pathologie vasculaire bénigne, dénommée couperose ou rosacée, qui touche aussi bien la femme que l'homme et qui traduit la production excessive par le corps de micro-vaisseaux sanguins. Cette affection peut être stable ou évoluer par poussée avec aggravation progressive des lésions. Elle peut aussi être accentuée par une grossesse. Pour traiter la couperose, on utilise un laser vasculaire, généralement un laser à colorant pulsé. Si on prend l'exemple du visage, le médecin aura le choix entre différentes techniques. La photothermolyse, où le rayon laser va en quelque sorte faire exploser les vaisseaux. On recourt à cette technique si les petits vaisseaux sont diffus, associés à des plages rouges. Mais on l'évite au maximum car il faut 10 à 20 jours pour voir disparaître la constellation de bleu couleur aubergine qui vont se former, d'où habituellement une longue éviction sociale. Une autre technique existe, la photocoagulation, où la paroi du vaisseau va être chauffée avant de se fermer, utilisée notamment quand les vaisseaux sont plus individualisés. Cette technique est la plus fréquente. La sensation de chaleur suite à une séance peut durer jusqu'à 45 minutes, mais la rougeur et l'œdème qui s'en suivent ne durent que 3 à 5 jours, avec au maximum une courte éviction sociale de 2 à 3 jours. Enfin, le médecin peut se situer à la limite des deux techniques précédemment présentées pour maximiser l'efficacité de la photocoagulation, mais le patient prend alors le risque de quelques bleus, en plus de la rougeur et de l'œdème, qui peuvent nécessiter un maquillage médical. Mais réjouissez-vous, il faut compter habituellement seulement 2 à 3 séances, espacées de 3 mois, mais sans dépasser 6 mois, pour ne pas perdre le bénéfice de la séance précédente. Ces séances ne demandent pas d'anesthésie, car elles sont faiblement douloureuses. Grâce à ce traitement, le patient retrouvera un visage débarrassé de rougeur ou presque, mais qui nécessitera de bien le protéger du soleil, car ce dernier favorise la réapparition de la couperose, ainsi que des séances d'entretien, au moins un an, voire beaucoup plus tard après la dernière séance, car les micro-vaisseaux auront tendance à réapparaître. Si toutes ces conditions sont respectées, vous ne rougirez plus qu'en bonnes circonstances.
Pour plus d'informations sur votre actualité santé, consultez le site internet de Radio Public Santé, Radio Public Santé, et abonnez-vous gratuitement à la newsletter de notre rédaction. www.publicsante.com.
In a pool of light, electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right.
Broken bells and a broken church. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. Cause you faith, no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right.
Ah, les hémorroïdes. Plus que gênant, non? Surtout pour une pathologie présente dans un endroit aussi tabou que l'anus. Et pourtant, des solutions existent et il n'y a pas de honte à avoir. Passé 50 ans, un Français sur deux en a déjà eu. Qu'elles soient internes ou externes, les hémorroïdes peuvent être très douloureuses. En fait, tout le monde a des hémorroïdes, mais ce qu'on appelle familièrement avoir des hémorroïdes, c'est en fait avoir une maladie hémorroïdaire. Démangeaisons, irritations et saignements constituent les principaux symptômes d'une crise d'hémorroïdes. La douleur n'est pas toujours présente, mais constitue les complications d'une crise qui dure. On peut alors parler de thrombose hémorroïdaire qui peut être soit présente à l'intérieur de l'anus, soit sur son pourtour. Si les hémorroïdes en elles-mêmes ne sont pas dangereuses, la thrombose peut l'être. Elle peut en effet sulsurer et saigner, entraînant alors une intense douleur pouvant contraindre à une hospitalisation. Alors comment lutter efficacement contre les hémorroïdes? Tout d'abord, faites attention à votre alimentation. C'est le meilleur moyen de prévenir les crises. En priorité, évitez absolument tout plat épicé et l'alcool. De même pour les viandes, le café et les thés qui sont des facteurs de risque. Privilégiez une alimentation saine et riche en fibres pour éviter la constipation qui est souvent à l'origine de crises hémorroïdaires. Boire beaucoup d'eau, entre 1,5 et 2 litres par jour, est également recommandé. Si ces conseils ne suffisent pas ou si vous souffrez, des traitements médicamenteux et même chirurgicaux existent. En général, un traitement simple à base d'anti-inflammatoires et antalgiques sous forme de pommade ou par voie orale suffit souvent à réduire l'inflammation et à atténuer la douleur. Mais en cas de symptômes plus intenses, des injections sclérosantes ou de la photocoagulation par infrarouge peuvent entre autres vous être prescrites. En dernier recours, si la maladie hémorroïdaire est très avancée, une opération chirurgicale peut être envisageable. Si les symptômes et les douleurs persistent, aussi gênant que cela puisse vous paraître, n'hésitez surtout pas à consulter un médecin, lui seul vous guidera vers une solution adaptée.
Vous écoutez,
la radio qui vous veut du bien.
Radio Public Santé.
Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.
There's nothing in this world I can do.
sur l'actualité nationale du week-end avec la rédaction de Ripley News, Maë Barbory.
Bonjour à tous. La crise agricole est-elle derrière nous? Après les dernières annonces du Premier ministre Gabriel Attal, la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont promis d'être d'une vigilance extrême pour surveiller leur concrétisation. Les deux syndicats majoritaires considèrent désormais que la phase de travail postérieure aux mobilisations entamées en novembre dernier se termine. S'ouvre désormais la troisième phase de suivi de la déclinaison concrète de chacune des mesures, ont écrit dans un communiqué commun les deux syndicats. Blocage de Sciences Po Paris. Le Premier ministre a lui vivement condamné aujourd'hui le blocage de l'école par des étudiants réclamant justice pour la Palestine. C'est un spectacle navrant, choquant, d'une majorité qui a cherché à perturber, a jugé Gabriel Attal, dénonçant l'importation d'une idéologie d'outre-Atlantique et les dérives d'une minorité agissante et dangereuse. Fin de citation. On part à Amiens maintenant, où la maire de la ville a signé un arrêté pour interdire l'exercice de la mendicité de mai à août prochain. Brigitte Fauré justifie sa décision par les plaintes récurrentes des commerçants et les interventions multiples des forces de l'ordre pour faire cesser les troubles à l'ordre public de la part des sans-domicile fixe.